Chapitre 53. Anneau équatorial. Daemon ne fut que modérément surpris en découvrant que l'hologramme de Prospero était capable de se lever et de marcher. Saisissant son bâton, le mage se dirigea lentement vers la cloison transparente. Lorsqu'il leva la tête pour contempler le mouvement des étoiles, la pâle lumière fit ressortir les rides sur ses joues et sa gorge. Daemon était fort troublé par tous les cas de vieillesse qu'il avait récemment pu observer, d'autant plus troublé si l'on pensait au sujet de leur présente conversation. Il tenta d'imaginer un monde où ses amis et lui-même, sans parler de sa mère, se mettraient à vieillir comme sa vie, comme cet hologramme tout ridé et tout avelé. Il en frissonna d'horreur. Puis il se rappela l'horreur des cuves, des asticots bleus et du buffet de Caliban. Il serait plus facile de tuer le monstre et d'en rester là, de laisser la firmerie en l'état. Non, songea-t-il, et ni la faim ni la fatigue ne pourraient le faire fléchir. Ce lieu était une obscénité, de quelque façon qu'on le considère. Le système des 5-20 reposait sur la conviction que les centenaires montaient dans les anneaux une fois leur terme accompli, pour y rejoindre les postes humains dans une vie de confort et d'immortalité. Daemon revit en esprit les cadavres grisâtres flottant dans l'air ténu et puant, et ce fut à grand-peine qu'il retint un reniflement de mépris.
« Pardon ?» fit Prospero en s'arrachant à sa contemplation.
« Rien, »
répondit Daemon. Il avait envie de pleurer ou de casser quelque chose. Non, de casser quelque chose, point.
« Comment pouvons-nous détruire la firmerie ?» demanda Harman.
Le vieil homme frissonnait de fièvre. Son visage encore plus blafard que celui de Daemon était moite de sueur.
« Comment, en effet ?»
Prospero s'accouda à son bâton et fixa les deux hommes.
« Avez-vous apporté des explosifs, des armes, outre le ridicule pistolet de sa vie, ou des outils ?»«
Non, » répondit Harman.
« Il n'y en a point ici. » L'évolution des postes humains les avait conduits à dépasser le stade de la guerre et du conflit, sans parler des outils. Les serviteurs faisaient la totalité du travail.
Il fonctionne encore, fit remarquer Daemon.
Seulement dans la firmerie,
répliqua le mage, regagnant la console centrale d'un pas lent.
Avez-vous pensé aux centaines d'êtres humains flottant impuissants dans les cuves de la firmerie?
Mon Dieu! Murmura Harman.
Daemon frotta ses joues mangées de barbe. Cela lui procura une sensation étrangement plaisante.
Nous ne pouvons pas utiliser les neufax des cuves de soins pour regagner la terre. Mais les personnes en question doivent pouvoir retourner d'où elles viennent par ce moyen.
Oui, dit Prospero,
si vous parvenez à convaincre les serviteurs d'agir en ce sens. Ou si vous prenez vous-même le contrôle des fax. Mais cela présente un problème.
Lequel ?
En même temps qu'il posait cette question, Daemon en déduisit la réponse. Prospero lui adressa un sourire sinistre.
Si une personne vient tout juste d'arriver dans sa cuve, ou si les asticots bleus en ont fini avec elle, il est possible de la renvoyer par fax. Mais pour les centaines d'entre elles qui sont en cours de procédure...
Son silence était éloquent.
Que pouvons-nous faire ? S'enquit Harman. Si nous attendons que le traitement soit achevé pour celle-là, il en arrivera et en repartira des centaines d'autres pendant ce temps.
Si Prospero dit vrai, si nous pouvons nous emparer des contrôles, déclara Daemon, nous serons en mesure d'interrompre les arrivées tout en autorisant le départ des personnes soignées, et ce jusqu'à ce que toutes les cuves soient vides. Nous sommes tous deux passés par là. Combien de temps pour traiter une personne ayant atteint un 20 ? 24 heures ? 48 pour un sujet grièvement blessé, tué par un allosaure, par exemple.
Vous n'avez pas été traité lorsque cela vous est arrivé,
précisa Prospero.
Ils vous ont reconstruit à partir de rien, en exploitant vos codes mémoriels affichés dans le réseau fax, votre ADN et des pièces de rechange organique. Mais vous avez raison, même les procédures les plus lentes ne dépassent pas les 48 heures.
Daemon écarta les bras et se tourna vers Harman.
« Ça fait 2 jours à attendre avant de détruire la firmerie !»«
Si nous pouvons en prendre le contrôle ainsi que celui des neufax, »
corrigea Harman d'un air dubitatif. Le mage s'accouda au dossier de son fauteuil.
je ne peux rien faire, mais je peux vous donner des informations, répéta-t-il. Je peux vous dire comment fonctionnent les neuf fax.
Mais nous ne pourrons pas nous faxer nous-mêmes, insista Harman. De toute évidence, il était inquiet à l'idée d'emprunter le Sony.
Non, répondit Prospero. Pouvons-nous reprogrammer les serviteurs pour qu'ils gèrent le fax? Demanda Daeman. Non, dit à nouveau le mage. Vous devrez les détruire ou les désactiver. Mais ils ne sont pas configurés pour le conflit.
Nous non plus, s'esclaffa Harman.
Prospero fit le tour de son fauteuil.
Oh, que si, murmura-t-il. Avec l'être humain, si civilisé soit-il en apparence, il suffit de réactiver de vieux programmes.
Daeman et Harman échangèrent un regard. Harman se remit à frissonner sous sa thermopeau bleue.
Vos gènes savent encore comment tuer, conclut Prospero. Venez, je vais vous montrer l'instrument de destruction.
L'hologramme de Prospero était dans l'incapacité de manipuler les contrôles virtuels de la console, mais il forma Daeman et Harman au maniement des leviers, des poussoirs, des réglettes, des touches et des manipulateurs. Une image apparut au-dessus de la console, masse de brume se définissant peu à peu pour devenir solide, et entama une rotation dans les trois dimensions.
C'est l'un de ces gros engins qu'on a vu en arrivant dans l'anneau, dit Daeman.
Un accélérateur linéaire équipé de son collecteur annulaire de trous de verre, expliqua Prospero. Les post-humains étaient fiers de ces gadgets. Comme vous le voyez, ils en ont fabriqué des milliers.
Et alors, fit Harman,
est-ce que vous voulez dire que ce sont ces trucs qui contrôlent le réseau fax sur Terre?
Prospero secoua sa tête ridée.
Votre système fax est purement terrestre. Il déplace dans l'espace-temps des données et non des corps solides. Mais ces collecteurs de trous de verre sont les araignées tapis au centre de la toile de téléportation quantique des post-humains.
Et alors, répéta Harman, nous voulons seulement retourner sur Terre.
Agrippez ce levier vert et serrez le cercle rouge à deux reprises, ordonna Prospero.
Daeman s'exécuta. Sur l'hologramme représentant l'accélérateur linéaire orbital, un quatuor de tuyère pulsa à deux reprises, projetant dans l'espace un petit cône argenté d'échappement cristallisé. L'assemblage de poutrelles, de réservoirs, de conduits et d'anneaux fut animé d'un faible mouvement de rotation. Les contre-tuyères effectuèrent une action égale et opposée, et l'accélérateur se stabilisa. Le trou de verre, placé à son extrémité, espace chatoyant de 50 mètres de large, centré dans le gigantesque anneau collecteur, n'avait pas bougé d'un iota. Daeman se rapprocha de l'image holographique et vit que l'anneau en question était monté sur cardan. Il plongea l'index dans l'image, faisant apparaître en regard de divers éléments des diagrammes et des légendes descriptives, lignes de retour, injecteurs, tuyères. Il retira sa main, faisant réapparaître l'image initiale. Ces mots ne signifiaient rien pour lui, bien entendu.
« Contrôle d'attitude, tuyère de translation orbitale », déclara Prospero. « Cet astéroïde est placé sur une orbite stable. S'il venait à tomber sur Terre, l'événement serait de nature à entraîner une extinction des espèces. Mais les accélérateurs collecteurs de trous de verre et les miroirs à effet Casimir étaient constamment déplacés.
« Depuis cette cité, » compléta Daeman.
Prospero acquiesça.
« Et depuis les autres, » ajouta-t-il.
Harman et Daeman échangèrent à nouveau un regard.
« Il existe d'autres cités post-humaines ?» demanda Harman.
« Trois, » répondit le mage. « Une dans cet anneau, deux dans l'anneau polaire.
Y trouve-t-on des post-humains en vie ?»
s'enquit Daeman. La destruction de la firmerie, qui sonnerait le glas du cycle des 520, n'était peut-être pas la seule solution, songea-t-il.
« Non, » fit Prospero en se rasseyant sur son fauteuil. « Et il n'y a pas non plus d'autres firmeries. » Cette cité était la seule à se soucier du sort des humains à l'ancienne modifiée que vous êtes.
D'un geste de sa main tavelé par les ans, Il désigna la terre qui se levait sur fond de firmament. Une vive lueur inonda de nouveau la salle sous le dôme.
« Tous les postes sont morts, » dit Daeman.
« Non, pas morts, » corrigea Prospero. « Seulement partis. »
Daeman contempla le croissant de terre et la noirceur de l'espace au-dessus de l'atmosphère frémissante.
« Où cela ?»«
Sur Mars, pour commencer. »
En voyant leur air ébahi, le mage eut un petit gloussement.
« Avez-vous seulement une idée de l'endroit où se trouve Mars ?»« De la nature de Mars ?»«
Non, » répliqua Daeman sans la moindre gêne.
« Les postes vont-ils revenir de là-bas ? » ?»«
Je ne pense pas, » dit Prospero sans cesser de sourire.
« Alors cela n'a aucune importance, n'est-ce pas ?» dit Harman. « Prospero, nous suggérez-vous d'utiliser cet accélérateur de trous de verre comme si c'était une arme ?»«
L'arme ultime retournée contre cette cité, » renchérit Prospero. Les explosifs ou les armes conventionnelles seraient peu efficaces contre la cité de cristal ou l'astéroïde. Ces tours sont conçues pour résister à un impact de météorite. Mais 3 kilomètres de matière exotique avec un trou de verre au bout, le tout soumis à une poussée conséquente, voilà qui aura un impact non négligeable. En particulier si vous choisissez la firmerie comme cible.
Caliban y survivra-t-il ? Demanda Daeman. Prospero haussa les épaules.
Ces tunnels et ces grottes l'ont déjà sauvé. Mais peut-être qu'une collision de cette ampleur entraînera l'extinction de l'espèce dont il est l'unique représentant.
Peut-il s'échapper avant l'impact ? Interrogea Harman.
Seulement s'il apprend l'existence du Sony et s'empare de l'une de vos thermopots, répondit Prospero.
À peine avait-il prononcé ces mots qu'il se fendit d'un sourire déconcertant, comme si une telle éventualité n'avait rien d'improbable.
Combien de temps cette monstruosité d'accélérateur mettra-t-elle pour heurter la cité ? Demanda Daeman.
Quand se produira l'impact ?
Vous pouvez le programmer pour qu'il arrive vite ou lentement, dit le mage en se levant.
Il entra dans la console centrale, ses jambes semblant se fondre dans les panneaux concrets et virtuels. Il leva une main, faisant légèrement glisser sa robe, et pointa son index osseux sur l'extrémité de l'accélérateur opposé à celle où s'ouvrait le trou de verre.
« C'est ici que sont placées les tuyères de changement de plan orbital, les plus puissantes de toutes. Je vais vous montrer comment les activer, c'est-à-dire... comment effectuer votre visée ? »
Écoutant ces instructions, les deux hommes apprirent à faire tourner l'accélérateur sur lui-même et à programmer ce que Prospero appelait ses coordonnées de trajectoire et son delta V. L'index de Daeman se figea au-dessus du bouton d'activation.
Vous ne nous avez pas dit combien de temps nous disposons avant l'impact ? Lança-t-il à Prospero.
L'hologramme joignit les mains.
50 heures, cela me semble correct. 1 heure pour gagner la firmerie et en prendre le contrôle. 48 heures pour assurer le traitement et le départ par fax des nouveaux arrivants. Et 1 heure pour gagner le Sony et fuir avant la destruction de ce mondicule.
Pas de pause pour dormir un peu, dit Harman.
Je vous le déconseille. Caliban ne va pas vous lâcher une seule minute.
Une nouvelle fois, Harman et Daeman échangèrent un regard.
Nous nous relayerons pour dormir, manger et surveiller les contrôles, déclara Daeman.
Il soupesa le pistolet, puis le rangea dans le sac à dos.
Nous saurons tenir Caliban en respect.
Harman hocha la tête d'un air dubitatif.
Il semblait épuisé.
Daeman examina à nouveau l'image de l'accélérateur linéaire, plaça à nouveau l'index au-dessus du bouton d'activation.
Prospero, vous êtes sûr que cela ne mettra pas fin à toute vie sur Terre ?
Le mage gloussa.
À la vie telle que vous la connaissez.
Sûrement,
rétorqua-t-il.
Mais on ne verra pas descendre des cieux un astéroïde en flammes annonçant l'extinction des espèces. Du moins, je ne le crois pas. Nous verrons bien.
Daeman se tourna vers Harman, dont les mains étaient enfouies dans le panneau virtuel.
« Vas-y,
dit Arman.
Daeman pressa le bouton. Sur l'image au-dessus du projecteur holographique, 8 énormes tuyères placées à l'extrémité de l'accélérateur linéaire s'embrasèrent de bleu, couleur caractéristique de l'ignition ionique. Le long assemblage fut parcouru d'un frisson et se mit à bouger lentement, fonçant droit sur les deux hommes.
« Adieu, Prospero !» dit Daeman, saisissant le sac à dos de sa vie et se tournant vers la membrane semi-perméable.
« Oh non !» fit l'intéressé. « Si vous réussissez à arriver jusqu'à l'infirmerie, je vous y attendrai. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer les 50 prochaines heures.